commencer avec Saint-Henri, n'est-ce pas? Je voulais simplement vous dire qu'il a été couronné empereur d'Occident en 1014 et que Henri II, c'était son nom, a gouverné son royaume avec sagesse. Un empereur extrêmement important. Il a collaboré à la fondation de nombreux diocèses et de monastères. Et avec son épouse, Sainte Cunégonde, il a réservé une part importante de leur vie de couple à la méditation puis à la prière. Alors, on peut saluer tous les gens de Saint-Henri, et où il y a une paroisse importante, Sainte Cunégonde, c'est son épouse. Au microphone, Raymond Beaugrand-Champagne, et je suis un amateur depuis ma plus tendre enfance de peinture, et j'ai visité tellement de musées. Je me souviens d'avoir vu un très beau dessin de Jean-Louis Forain à Paris, au musée Carnavalet. C'était magnifique, un très très beau dessin. C'était un très grand dessinateur, cet homme qui est né en 1852. Et il est mort en 1931. Mais quelle vie extraordinaire! Je m'inspire d'un texte de Pierre Ladoué. Et c'est absolument phénoménal que la vie de cet anarchiste, ce cynique, cet homme très sarcastique et même un peu démolisseur, hein? Car pour le grand public, c'était du moins l'impression qu'ils avaient de Jean-Louis Forain. Si vous regardez dans des grands dictionnaires Larousse en plusieurs volumes, vous y verrez même au besoin sa photo, des reproductions de ses œuvres et une notice assez importante. Hein? Alors, on peut dire qu'il y a deux Forain. Forain, c'est F-O-R-A-I-N. On peut dire qu'il y a deux Forain. Il y avait le réaliste, là, le farouche censeur de tous les vices de l'humanité. Puis d'autre part, il y avait cet idéaliste dont l'âme apparaît pénétrée parfois de mysticisme, car il est devenu vraiment un mystique. C'est un Forain, n'est-ce pas, qui a retrouvé la foi de son enfance. Sa conversion n'a pas été peut-être aussi rayonnante que celle d'un Georges Desvallières, un autre artiste important, plus important qu'on ne le croit, du début du siècle. Je possédais d'ailleurs un magnifique livre de très grande qualité, une reliure superbe, vous savez, les grandes reliures de grand luxe. C'était La vie de Marie, illustré par Georges Desvallières. Et je me disais, c'est ridicule de garder ça chez moi, personne ne peut le contempler, personne ne peut le voir, et pas grand monde voulait voir des illustrations religieuses de Georges Desvallières pour Une vie de Marie. Alors je l'ai donné à l'Oratoire Saint-Joseph, et je suis très content, ils ont un excellent musée. Je vous recommande, si vous avez des œuvres d'art remarquables, donnez-les au musée aux besoins de l'Oratoire Saint-Joseph, et qui collectionne de façon remarquable des tas de choses très importantes. Hein? Alors, la conversion, donc, de Jean-Louis Forain n'est peut-être pas aussi importante que celle de Georges Desvallières, mais elle était sincère et frappante. Surtout, quand on y pense, dans les circonstances où elle s'est effectuée. Cet homme est né à Reims. Tous ceux qui s'appellent Champagne au Québec viennent de cette région, hein? La région de Reims, en Champagne, où on fait le bon vin de Champagne. Hein? Il est né rue des Moulins, le 23 octobre 1852. Ses parents sont venus s'établir à Paris vers 1860. Alors il va à l'école, au catéchisme, il apprend un peu de latin. Il fait sa première communion à l'église Saint-Pierre du Gros Caillou. Vous connaissez peut-être ça à Paris, c'est une paroisse importante. Et, chose assez étonnante, cette première communion lui est restée dans le cœur. Il est resté frappé par ça. Ça n'a pas paru au début. Parce qu'il a été dévoré très tôt du désir d'être un artiste. Il dessinait. Et un jour, au Louvre, il dessinait sur un cahier de classe. Il avait alors à peu près 15 ans seulement. Là, un vieux monsieur qui s'est arrêté près de lui entamait une conversation avec lui. Ça s'est prolongé à la sortie du musée du Louvre sous un parapluie. Alors l'homme très âgé lui a dit « Tu veux être peintre? » Il dit, moi, je suis professeur de dessin. Je pourrais te donner des leçons pour en parler à tes parents. Moi, je demeure rue Cassette, a-t-il dit. Et viens me voir. Rue Cassette, à Paris, c'est une rue où j'ai logé très souvent à l'hôtel de l'abbaye. C'est juste à côté de l'Institut catholique. Et c'est juste à côté de cette église où ont été massacrés tant et tant de prêtres, dont André Grasset, qui était né à Montréal. Je vous en parlerai le 2 septembre prochain. Alors, ce peintre, ce qui s'appelait Jacquesson de la Chevreuse, quel beau nom, hein, c'était un ancien élève de ce peintre, Paul de la Roche, puis il enseignait le dessin à Toulouse, et il n'était monté à Paris que pour un temps, parce qu'il voulait suivre attentivement les études de son fils, qui préparait le concours de Rome. C'est un concours très important pour les jeunes artistes. Hein. Obtenir le prix de Rome, c'était très, très important. Alors, le jeune forain, Jean-Louis Forain, dont il est question aujourd'hui, s'est empressé, avec l'autorisation de ses parents, d'accepter l'offre qui lui était faite, et c'était formidable. Alors, pendant près d'un an, il a fréquenté chez ce grand professeur, que le ciel lui avait envoyé, pour ainsi dire. Il a suivi des cours. Et puis, cet homme qui était profondément religieux, M. Jacquesson de la Chevreuse, ne s'est pas appliqué seulement à enseigner à son élève l'art du dessin, mais aussi à lui inculquer de bons principes moraux et religieux. Et c'est très important d'inculquer à des jeunes, d'une façon intelligente, clairvoyante, ces principes qui ne sont plus guère enseignés, semble-t-il. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de jeunes qui sont très égarés, ne savent même pas pourquoi ils vivent, ne savent pas les joies d'être bons, d'être meilleurs, d'essayer de se surpasser. Et c'est bien tragique, et il ne faut pas se moquer de ce Jacquesson de la Chevreuse, n'est-ce pas, qui a essayé de former Jean-Louis Forain. Alors il l'amenait visiter les églises de Paris. Mais pourquoi pas, il y a de très belles églises à Paris, de magnifiques églises. Et il l'amenait de façon assez sympathique, dans les églises où il y avait l'adoration perpétuelle. Je vous rappelle, je vous en ai déjà parlé de l'adoration perpétuelle. Je vous en parlerai plus longtemps un jour en mentionnant la vie de ce grand homme qui est Hermann Cohen. Quel nom juif, hein? Mais oui, c'était un juif converti qui a établi l'adoration perpétuelle. S'est fait carme. J'ai lu une vie de lui énorme qui est passionnante, hein, écrite par un bénédictin de l'abbaye de Fontgombault en France. Alors, Monsieur de la Chevreuse et le jeune Jean-Louis Forain allaient à pied dans les quartiers parfois qui étaient très éloignés de la rue Cassette où il enseignait à Jean-Louis Forain. Et en parlant plus tard de ses randonnées, Jean-Louis Forain disait qu'il marchait de Picpus à Ménilmontant. Picpus, c'est pas à la porte, hein. J'ai déjà résidé tout près rue Racine en 1950, là. Ça s'appelle Picpus, c'est à cause, c'est le nom qui a été donné à une congrégation religieuse qui a été établie là, les pères et les sœurs des cinq heures de Jésus et de Marie. Si je donnais le nom de leur congrégation au long, ça pourrait vous faire rire, les pères des cinq heures de Jésus et de Marie et de l'adoration perpétuelle du Saint-Sacrement de l'autel. Ce qu'au 19e siècle, on n'avait pas de sens commun quand on donnait des noms à des congrégations. Alors, le nom était tellement long que les gens les appelaient les pères et les sœurs de Picpus, P-I-C-P-U-S. Alors, ils se rendaient de Picpus à Ménilmontant et Forain et observaient dans les textes qu'il nous a laissés qu'on ne prenait pas assez souvent l'omnibus. L'omnibus, mais vous savez, à cette époque, c'était une espèce de tramway, si vous voulez, tiré par des chevaux. Après l'exposition de 1867, M. de la Chevreuse a regagné Toulouse avec sa famille, avec son fils. Jean-Louis Forain, lui, a commencé de mener avec quelques jeunes, on les appelle des rapins, c'est même pas du mot rapine, peut-être, un peu, qui est un peu voleur, mais c'était les étudiants aux Beaux-Arts à Paris, on les appelait des rapins. Alors, donc, avec quelques jeunes étudiants de son âge, et il menait une vie un peu dure et assez joyeuse, hein, une vie d'étudiant aux Beaux-Arts. En tout cas, il n'est pas douteux qu'il a oublié alors le chemin des églises qu'il avait visité avec M. de Chevreuse, de la Chevreuse. Et alors, ce vieux prof avait-il perdu son temps? Mais il semble que le souvenir de M. de la Chevreuse a favorisé quand même chez Forain, quand il est parvenu à l'âge mûr, une espèce d'éclosion du germe qui avait été déposé dans son âme au temps de son adolescence. Et sachez bien, les parents, si vous vous inquiétez sur l'évolution de vos enfants, ne vous inquiétez pas outre mesure. On en voit qui font les 400 coups, comme on dit, et qui tout à coup se ressaisissent et retrouvent, plus tardivement peut-être aujourd'hui qu'autrefois, le sens de la vraie vie spirituelle. Et à l'école des Beaux-Arts, où Jean-Louis Forain est finalement entré, il a reçu l'enseignement du grand peintre Jérôme, Jérôme avec un G, et non pas un J. Jérôme, c'était un très grand peintre, c'est un homme sévère. Il est entré ensuite chez Carpeaux. On voit souvent à Paris, en France en tout cas, des statues de Carpeaux, des statues énormes, des bronzes très importants. Donc, c'est Carpeaux qui lui a appris à modeler, et surtout à regarder la vie, avant de tenter de l'exprimer dans des œuvres d'art. Alors, Jean-Louis Forain, très jeune, a donné alors des croquis à des journaux, comme La Lune Rousse, L'Éclipse. C'était des journaux assez importants. Mais il est survenu la guerre de 1870, la guerre de la Commune. C'était terrible à Paris. Et alors, c'était pour Jean-Louis le temps, si on peut dire, de la vache enragée. Alors, il a partagé une pauvre chambre avec Rimbaud. Oui, partageait la chambre avec Rimbaud, rue Campagne Première. Il amenait Rimbaud au Louvre parce que c'était chauffé. Ils gelaient tous les deux. Ils mangeaient pas tous les jours à leur faim. Puis il travaille avec beaucoup de courage. Il rencontre le soir, pas n'importe qui, Charles Cros. Vous savez, on dit souvent que un tel a gagné un prix du disque Charles Cros. Ça vient de lui. Il rencontrait aussi le soir Paul Verlaine, le grand poète aussi, et quelques autres dans un petit café de la rue Drouot, où l'on discutait évidemment en fumant la pipe. En 1871, il a 19 ans. En 73, il est trop pauvre pour pouvoir acheter des couleurs. Il peut même pas terminer une nature morte qu'il a commencée. C'est un bouquet de violettes qui demeure inachevé. Et ce n'est qu'après son service militaire, qui est accompli dans l'infanterie à Laval, en 1873-1874, qu'il commence cette carrière de dessinateur satirique, qui d'année en année deviendra plus brillante et plus lucrative. Il fait énormément d'argent. Il s'éloigne peu à peu de la manière de Grévin. Vous connaissez le musée Grévin, musée de cire à Paris, qui était un artiste. Alors, il s'éloigne de la manière de ce Grévin qui l'avait influencé. Il l'a imité. Puis Jean-Louis Forain finit par affirmer sa personnalité dans des dessins qui paraissent en 1876, il est encore tout jeune, dans La Cravache, qui est très réputée. En 1879, ses dessins paraissent dans La Vie moderne, en 80 dans Le Monde parisien, puis collabore plus tard au Chat Noir, à la revue Illustrée, au Courrier français. Ce sont des revues qui étaient très, très populaires il y a un peu plus de 100 ans à Paris. Et ceux qui en ont dans leur grenier ici pourrait, il faut pas détruire ça, ça devient très important. Alors, il délaisse pas pour autant la peinture, mais il fait de plus en plus d'argent avec ses dessins, et puis ça lui permet d'acheter ce qu'il faut pour peindre. Alors au printemps 1879, mais ses toiles figurent à la 4e exposition des peintres indépendants, avenue de l'Opéra, puis en 81. Il expose chez le fameux Nadar. Alors, au salon de 1884, il envoie le buffet. C'est une scène de la vie parisienne, comme on faisait souvent. Il y en a, mon Dieu, tous les peintres impressionnistes à peu près en ont fait, où l'on voit des gens du monde en habit, puis en toilette de soirée, et qui quittent un moment le plaisir de la danse pour se laisser aller à celui de la gourmandise. Et dans cette œuvre, qui est une des plus marquantes de ses débuts, bien Jean-Louis Forain dénote bien une influence du grand peintre Manet et même de Degas. Mais Degas ne s'y trompe pas. Et Degas déclare, parlant de ce tout jeune peintre, « Il me tient peut-être encore par la basque de ma redingote, mais je suis sûr que Jean-Louis Forain ira loin s'il lâche ma redingote. » Il a reçu aussi un autre encouragement qui a marqué le début d'une amitié, d'une camaraderie. Ça lui vient de Huysmans, Joris Karl Huysmans. Peut-être ne connaissez-vous pas Huysmans. Je vous recommanderais de le lire, c'est encore valable aujourd'hui. Huysmans, qui était un excellent écrivain, à mon avis. Bah, c'est peut-être un peu vieux, mais c'est encore très valable. Et Forain va exécuter vers 1879 un portrait au pastel de Huysmans, qui est conservé au musée de Versailles. Je l'ai vu, très très beau portrait. Et Huysmans, qui a alors un peu plus de 30 ans, Forain, lui, n'en avait que 28, c'est déjà un critique d'art dont les jugements font autorité, puis il a découvert Jean-Louis Forain à l'exposition des impressionnistes. C'est à lui que Huysmans va demander d'illustrer ses fameux croquis parisiens. Et Forain, selon Huysmans, est un des peintres les plus incisifs de la vie moderne que je connaisse. Alors, fidèle aux leçons de Carpeaux, dont je vous ai parlé tout à l'heure, bien Forain s'attache à regarder, à compter la vie de tous les jours. Et ceux qu'il fustige dans ses dessins, ce sont, on peut dire, les usagers des sept péchés capitaux, c'est-à-dire les vaniteux, les repus, les hypocrites, les égoïstes, les exploiteurs, les financiers, les politiciens. Il s'acharne en somme contre toute la société bourgeoise. Et à la manière et dans le style d'un Saint-Simon plutôt que d'un La Bruyère, bien Forain dévoile et stigmatise toutes les tares d'une société où on peut dire que Satan conduit le bal, selon les paroles d'un opéra qu'on connaît bien. Et Satan conduit le bal, conduit le bal. Et alors, une société à laquelle, d'ailleurs, à l'encontre du grand peintre Toulouse-Lautrec, il ne se mêle jamais complètement. On sait que Toulouse-Lautrec fréquentait les bordels, n'est-ce pas, bien qu'il était de haute noblesse, de la région de Toulouse. Alors, il ne se mêle jamais complètement aux gens qu'il méprise. Il se contente de les observer. Et en somme, on peut dire qu'il reste sur le rivage. C'est un chroniqueur objectif, indépendant. Les dessins de Forain sont accompagnés de légendes, de textes. On faisait ça souvent. On voit ça chez Daumier et quantité d'autres caricaturistes de cette époque, ou plus tôt. Et alors, les légendes accusent, en approfondissant, le dessin. Ça prolonge la portée. Les légendes qu'il écrit restent dans les mémoires. On les colporte, on les cite dans les conversations. Alors, les mots de Forain, ces courts dialogues, sont empreints d'une telle vérité qu'on se demande s'il les a vraiment entendus ou bien s'il les a inventés, mais ils sont souvent la synthèse de toutes sortes d'observations qu'il a faites. En somme, il fait comme Molière, et ce serait inexact, ce serait même injuste de ne voir qu'en Forain une espèce d'amuseur, hein, ou quelqu'un qui essaie de démolir la société, une espèce d'anarchiste. C'est beaucoup plus que ça. Les traits de son esprit, ça part de la plus profonde connaissance du cœur humain, comme disait un critique. S'il peint le vice, il ne s'y complaît pas. C'est au fond un moraliste, hein. Il moralise à propos du vice. Et à sa façon, on peut dire que c'est une espèce de prédicateur, mais un prédicateur incroyant. J'ai des amis, moi, qui sont incroyants, qui sont d'une intégrité surprenante. J'ai un ami qui m'a rendu visite il y a quelques jours, dans un moment de détresse un peu. Mais quelle intégrité chez lui, hein? Et il serait capable, s'il était dessinateur, de faire des remarques qui seraient extrêmement intelligentes, j'en suis sûr. Alors, sous des dehors peut-être affreux du péché qu'il dessine, sous le grotesque, ce qui est honteux, et fait entendre un accent qu'on pourrait dire vengeur. C'est le cri de la conscience et sa férocité est tempérée, en somme, quand même, par la compassion. Et c'est avec, petit à petit, les yeux du Christ lui-même qu'il regarde la femme adultère. Et, en bref, il arrive petit à petit à spiritualiser le naturalisme. Et en cela, il rejoint justement Huysmans, dont je vous ai parlé. Huysmans, qui de plus en plus va marquer Jean-Louis Forain de son influence. Et aux alentours de cette année 1895, date la première édition du grand roman de Huysmans, En route. Jean-Louis Forain, qui s'était marié en 1891 avec Jeanne Bosque, qui était peintre, elle aussi, peintre de grand talent, et qui menait finalement désormais une vie bien bourgeoise dans l'hôtel particulier que Jean-Louis Forain venait de se faire bâtir rue Spontini, bien Forain a certainement lu ce livre En route, qui était, disait-on, furieusement catholique, qui eut un énorme retentissement, qui a bouleversé l'opinion, et qui a même fait dire à Zola, Émile Zola, que Huysmans était devenu complètement fou. Alors, lors de la publication d'un autre roman, À rebours, en 1885, Barbé de Réveillé avait été scandalisé, s'était écrié, « Après un tel livre, il ne reste plus qu'à son auteur qu'à choisir entre la bouche d'un pistolet ou les pieds de la croix. » On n'y allait pas de main morte, c'était la querelle entre les catholiques et ceux qui se moquaient d'eux. Mais c'est toujours la même chose aujourd'hui. Huysmans, catholique, avait opté pour le parti de la croix. Et au mois de juillet 1892, il avait été orienté par le fameux abbé Munier, qui était vicaire à Saint-Thomas d'Aquin. Un jour, il faudrait que je vous parle de l'abbé Munier, qui a eu un rayonnement, c'est un homme d'une grande culture. Alors, il s'était rendu, sous les conseils de l'abbé Munier, il s'était rendu à la Trappe d'Igny, I-G-N-Y, la Trappe d'Igny. Il a fait retraite, il s'est confessé, puis il a communié Huysmans. Et à son retour, il a commencé, là, à écrire En route, où, sous le nom de Durtal, c'est le personnage de son roman, il relate les étapes de sa propre conversion. Mais le mot « étape », est-ce que ce serait exact? Voici ce que dit Durtal dans le roman. Ce n'est pas le coup de foudre, à moins que je n'admette un coup de foudre qui serait occulte, taciturne, bizarre et doux. Il continue plus loin à dire, « Ah, quand je songe à ce dégoût de l'existence qui s'est d'année en année exaspéré en moi, comme je comprends que j'ai forcément cinglé vers le seul port où je pourrais trouver un abri, c'est-à-dire vers l'Église. Jadis, je la méprisais, cette Église catholique. J'avais l'art. J'ai fini par reconnaître la parfaite insuffisance de l'art et de la littérature, leur inaptitude résolue à rendre heureux. » C'est dans En route, page 22-28. Et le même phénomène, le même processus s'observe exactement chez Jean-Louis Forain, qui pourrait signer lui-même cette confession. S'il s'est posé, comme le personnage d'Urtal En route, la question « Comment suis-je redevenu catholique? Comment en suis-je arrivé là? » Mais il pourrait se répondre comme d'Urtal « Je l'ignore. » Et alors, si la conversion de Jean-Louis Forain s'est faite de façon assez remarquable, ça peut être un bouleversement subi puis total. Ça s'est fait petit à petit. Il n'y a rien qui a déterminé une crise. Dieu qui le cherchait l'a trouvé, en somme. Dieu est entré, ou rentré, si on veut, en lui, simplement. Dieu l'a vaincu sans drame, sans douleur. Le besoin d'idéal qui tourmentait Jean-Louis Forain a reçu satisfaction, finalement. Et plus tard, dans des termes qui rappelle singulièrement ceux qu'emploie le personnage Durtal du roman En route de Huysmans, eh bien, il dira à Maurice Verne, qui l'interrogeait au sujet de sa conversion et qui a rapporté les propos dans la revue des Beaux-Arts du 15 mars 1921, « La foi vient comme ça, tout d'un coup. » Alors, si la grâce a effectué ainsi une infiltration tout à fait discrète, si on peut dire, dans l'âme de Forain, il est toujours resté le même. il manifeste pas extérieurement l'évolution qui s'est opérée en lui. Non, non. Il semble au contraire qu'il garde de tout ça une certaine pudeur. Ça le gêne un peu. Mais c'est pas facile pour quelqu'un qui passe toujours pour un homme incroyant et solide et ferme et courageux et qui fustige la société pour dire qu'il se range du côté de ces étranges catholiques. Alors la verve chez lui n'est pas tarie, pas du tout. Il est toujours plein d'esprit et puis il est sarcastique. Mais il y a une disposition de converti qui petit à petit transparaît dans son œuvre artistique. Il y a certaines personnes qui le discernent. Il y a un critique, Adolphe Brisson, qui écrit dans la revue Illustrée du 19 mars 1900 « Peut-être y a-t-il des ardeurs d'apôtre sous le rire de ce sceptique ?» Alors là, au début de l'année 1900, au tournant du siècle, Huysmans s'était cédé par toutes les futilités de la vie. Il est fatigué de la superficialité des choses à Paris. Alors là, il va s'installer dans le Poitou. À un endroit dont je vous ai parlé cette semaine, c'est-à-dire à Ligugé, là où il y a le plus vieux monastère de France, dont on a entendu les chants des moines cette semaine, des bénédictins, des moines qui sont là depuis 1500 ans et davantage. Imaginez, ça fait plus d'un millénaire et demi que des moines chantent la gloire de Dieu au même endroit à Ligugé. Il faut aller à Ligugé, hein, on fait des fouilles actuellement et on trouve des traces du tout premier monastère qui date de l'environ de l'an 400. C'est merveilleux de visiter ça, c'est très émouvant. Alors, Jean-Louis Forain est désireux de mener là une vie paisible à proximité de l'abbaye de Saint-Martin, où il peut se régaler de liturgie. Alors, il va là auprès de Huysmans, qui est déjà installé, et dans ce qu'il appelle la maison Notre-Dame. Alors, il est très heureux d'avoir accepté l'invitation de Huysmans, et les deux amis se retrouvent donc réunis pour la Noël de cette année 1900. Et ensemble, ils assistent à l'office chez les bénédictins, puis ils communiquent côte à côte, ce qui va plonger dans la stupéfaction quelqu'un de très connu à l'époque, Lucien Descaves, quand il apprend le fait. Ça me rappelle chez moi la visite de Paul Toupin, qui avait été secrétaire de l'Académie dite canadienne-française à l'époque. Et Paul Toupin, qui était un écrivain réputé, qui vivait en Espagne, était venu me trouver chez moi. Je ne le connaissais pas. Il voulait être interviewé à Rencontre à la télévision. Ça me tenait un peu. Il voulait parler, lui qui était athée, de différentes choses, de la littérature et tout et tout. Et puis, je lui ai dit que c'était pas tout à fait ce que je cherchais pour mon émission, que je cherchais des gens qui avaient un approfondissement de leur vie. Il semblait pas tout à fait l'avoir. Je voulais pas le lui dire. C'était gênant. Alors, je lui ai fait entendre les entrevues du Père Jean, dont je vous ai parlé aussi cette semaine, l'abbé de l'abbaye d'Aiguebelle. Et les deux entrevues que j'avais sur cassette chez moi, je les lui ai fait voir. Et après ça, je lui ai dit, je m'excuse, j'ai un rendez-vous. Il dit, vous avez un rendez-vous? J'ai dit, oui, j'ai un rendez-vous. Il est 5h15. Alors, dans l'après-midi, il était un peu surpris. Ben, j'ai dit, j'ai un rendez-vous, je vous l'avoue, avec Dieu. Bon, je m'en vais voir Dieu. Ben, je le verrai pas, mais enfin, je vais lui parler. Je vais le louanger. Et je vais recevoir l'Eucharistie. Il dit, vous êtes un drôle de type. Alors, on est sortis, mais il était très ému par les deux entrevues qu'il venait de voir. Il a rencontré l'abbé Pierre Léger à la sortie de l'église, car il attendait sur le trottoir. Il s'est confessé. Et à ma grande surprise, le lendemain, il a communié pour la première fois depuis l'âge de 16 ans. Il en avait 65. Il est mort, et j'espère qu'il est mort profondément catholique, car il était demeuré. Je sais qu'il allait à la messe tous les jours. Il s'était converti grâce au Père Jean, grâce à un moine. Les moines ont une influence énorme. Hein. Et alors donc, Forain écrit un jour dans une lettre « Tout ce que j'ai fait jusqu'à présent en art me semble chose vaine, et je sens que je n'aurai de repos que quand j'aurai confessé, manifesté ma foi avec les moyens que Dieu m'a donnés. » Et c'est comme ça qu'il va peindre des choses religieuses assez remarquables. Dans une autre lettre écrite par Jean-Louis Forain à Huysmans, datée du 24 février 1901, il écrit « Mon cher Huysmans, tous les jours, je pense à vous écrire et j'en étais empêché par mes travaux journaliers et surtout par la sale vie de Paris qui vous empêche de vous recueillir, qui vous fait croire qu'on va trouver l'ennui si on ne l'amène pas. Si on ne mène pas cette vie de Paris, on va s'ennuyer. Mais c'est tout le contraire. Quand on mène la vie des villes, on s'ennuie. Moi, il n'y a rien qui m'ennuie plus que les réceptions et ces choses-là, à moins d'y rencontrer quelqu'un de vraiment intéressant, ce qui est assez rare. Hein. Dans sa lettre, il continue en disant « J'ai cherché un tableau religieux, mais je n'ai pu encore parvenir à le composer, comme je le désire, et je pressens ce qu'il doit être. Je voudrais faire le départ de la Sainte Vierge après la mise au tombeau. J'imagine que tout étant fini, elle se retire accompagnée de Saint Jean et des saintes femmes, et les aides, ou les ouvriers de Joseph d'Arimathie, la saluent et se découvrent sur son passage. Je vois bien dans quel effet, dans quelle atmosphère, dans quelle tonalité il faudrait faire cela, mais c'est tout. Et je ne vois ni le style des figures, ni leur expression. Bon, c'est là que je me sens sans force, sans conviction. Il est tout petit, maigrelet, pour concevoir et réaliser une œuvre qui pourrait être si digne, si j'ose dire. Je sens que tout cela tient au mauvais pli de ma vie passée et à la lâcheté de ma vie présente. Oh, mon cher Huysmans, priez et faites prier pour moi pour que j'en sorte. À vous, bien affectueusement, Forain. Alors, à la question posée, Huysmans répondit en ces termes, « Cela s'élucide lentement avec l'aide de prière. Il faut de la patience et attendez. Vous pouvez bien penser une chose, c'est que si Dieu vous a ramené à lui, comme il a fait pour moi, c'est pour que nous lui soyons, selon la mesure de nos pauvres forces, utiles. Il vous en donnera donc, ainsi qu'à moi, les moyens. » C'est très beau, ça. Hein? « Il vous en donnera donc, ainsi qu'à moi, les moyens. » Nous ne pouvons lui être de quelque utilité qu'en art. Par conséquent, il nous aidera et il nous mettra à même d'accomplir notre œuvre de reconnaissance et d'expiation. Et alors, en 1905, à la suite d'un zona, Huysmans demeure privé de la vue pendant plusieurs mois. Puis là, il aurait vu, c'est assez étrange, la lumière le jour de Pâques. On peut se demander si c'est un miracle à retardement dont il a évoqué d'ailleurs les exemples dans son livre « Les foules de Lourdes » qui est paru chez Stock en 1906 et qui a été republié souvent depuis. Hein. D'ailleurs, Jean-Louis Forain, qui avait admiré la résignation qu'il disait stupéfiante pour ses amis, avec laquelle Huysmans avait enduré le zona, a lu avec une émotion profonde les pages fulgurantes. Le rêve d'une société qui serait propre, écrivait Huysmans, le rêve d'une société qui serait propre se décèle pour quelques mois tous les ans à Lourdes. C'est ça qu'il écrit dans son livre Les Foules de Lourdes. Alors il décrit ce que j'ai bu moi-même plusieurs fois à Lourdes. Hein. C'est beau les Foules de Lourdes. Huysmans écrit, il est dû à cette vertu que saint Paul déclarait supérieure à toute, la charité. Et je songe mélancoliquement que si les préceptes du Christ étaient suivis, eh bien l'existence pourrait être clémente à tous. C'est dans son lit, quand on voit à Lourdes la charité, la tendresse que tout le monde a à l'égard de tout le monde, non pas dans le village de Lourdes, là où on vend toutes sortes de choses, non, non, passer les grilles où on ne vend plus rien, c'est défendu là, parce que là c'est le domaine de l'Église catholique. Les rues sont aux marchands. Souvent, ce ne sont même pas des catholiques qui vendent des statues lumineuses, de l'eau bénite, etc., et toutes sortes de choses. Hein. C'est incroyable, tout ce qu'on vend à Lourdes. Mais c'est mieux aujourd'hui. Hein. L'évêque de la région a obtenu des marchands que l'on n'exagère pas trop. En tous les cas, Forain, Jean-Louis Forain, qui est caustique, se sent de plus en plus persuadé, n'est-ce pas, des beautés de la foi chrétienne. Et de plus en plus, il l'incline vers les réflexions sérieuses. Il prend davantage conscience des vanités du monde. Il juge la vie à son véritable prix. Une ou deux fois déjà, il a éprouvé par lui-même la vertu de Lourdes. Et en 1900, il avait été témoin de la guérison du fameux commis ambulant des postes, le Gargan. Avez-vous déjà lu ça? Il faut lire ça. Oh, j'ai lu ça il y a des années dans un livre qui est tout usé, qui s'appelle « Guérison de Lourdes » de Joseph Belnet, aux éditions du Centurion. C'est paru il y a longtemps. Et en page 59, il y a la guérison de Gabriel Gargan. Mais c'est tellement extraordinaire. Comment ne pas croire après de tels miracles? Des miracles fantastiques. Un Gargan avait été victime d'un très grave accident qui était survenu le 17 décembre 1899. Et Jean-Louis Forain avait été vivement frappé par la résurrection de cet homme, comme il l'écrit, qui n'avait jamais été à l'église depuis sa première communion, qui était amené mourant aux piscines de Lourdes et qui, plongé dans le bain, attaché sur une planche, s'est évanoui, puis a rouvert les yeux et s'est dressé debout. Comment ne pas croire? Je suis bouleversé des fois. Il y a des milliers de témoins de ces miracles extraordinaires qui sont relatés dans ces livres, mais si on veut bien les lire, on croira. Qu'on ne vienne pas m'expliquer que c'est psychologique. Voyons donc. En tous les cas, bon, il ne faut pas que je me fasse. Jean-Louis Forain est demeuré à partir de là un fervent de la grotte de Massabielle à Lourdes. Et c'est lui qui va composer l'affiche pour le congrès eucharistique qui se tient à Lourdes en juillet 1914. C'était la surprise de bien des gens à Paris, hein. Il écrit un jour, j'ai été souvent à Lourdes, j'y chante le Pace Domini. Vous vous souvenez des plus âgés? Pace Domini. Et alors, il dit, j'y suis très bien reçu par monsieur de Beauchamp, qui s'occupe de l'hospitalité. Et de plus en plus, sa foi va grandissante. Et c'est ainsi que Jean-Louis Forain aura opéré d'une manière toute simple ce retour aux pratiques religieuses dont il éprouve finalement la douceur. Cette espèce de conversion qui touche jusqu'au fond du cœur. Hein. Il n'y a pas de coup de foudre, mais il suit le chemin, petit à petit. Et parlant de la double conversion de Huysmans et de Jean-Louis Forain, le fameux Lucien Descaves a écrit dans les Nouvelles littéraires du 15 août 1931, Il est possible qu'un sourcier les ait touchés de sa baguette, mais la source était en eux et n'attendait qu'une occasion pour sourdre. Et c'est donc vrai, ça. Je crois fermement, ajoute Descaves, quant à moi, que Huysmans a fait, par son exemple, cet office de sourcier vis-à-vis du grand artiste Jean-Louis Forain, son compagnon de jeunesse et d'art, par affinité de tempérament et de goût. Et alors, on peut dire que l'exemple de Huysmans, peut-être, a fait son effet, mais c'est à coup sûr la grâce de Dieu. C'est l'action de l'Esprit-Saint qui jaillit au creux de ceux qui comprennent un bon jour que la vie mérite d'être vécue avec Dieu. Sans lui, c'est le désert. C'est un désert lunaire. Il n'y a pas d'explication au monde et à l'univers et au sens de nos vies. Et au début de 1907, Huysmans a quitté la maison de santé de la rue Blomet, où il était entré pour revenir à son domicile de la rue Saint-Placide, et c'est là qu'il est mort, comme un saint, Huysmans, hein, après d'atroces souffrances le 12 mai 1907. Je vous parlerai le 12 mai de l'an prochain, si je suis toujours là, de ce merveilleux Huysmans que j'aime beaucoup. Or, Jean-Louis Forain en a éprouvé beaucoup de chagrin, Et il a gardé sa mémoire avec une sorte de vénération. Puis la période qui va de 1908 à 1913 est celle où, revenu à la fois de sa jeunesse, bien, Jean-Louis Forain produit la partie de son œuvre qui lui vaudra sans doute, aux yeux des gens qui saisissent, sa gloire la plus pure et la plus durable. Ce sont des eaux fortes religieuses qui sont magnifiques. Ces eaux fortes sont inspirées de l'Ancien et du Nouveau Testament. Elles sont d'un métier si prestigieux qu'elles ont été rapprochées, et ça, c'est des critiques sérieux qui l'ont fait, mais ça semble exagéré, enfin, je le dis quand même, elles ont été rapprochées des admirables planches de nul autre que Rembrandt. Et les sujets ne sont significatifs, c'est le retour de l'enfant prodigue. On voit un vieil homme qui se penche pour appuyer ses deux mains bénissantes aux épaules de son malheureux fils revenu, pieds nus, à la maison familiale, et qui, devant son père, s'est jeté à deux genoux. Mon fils aimait beaucoup, beaucoup, beaucoup cette scène. Autre sujet bien révélateur de son état d'esprit, de son état d'âme, c'était celle qu'il a intitulée « Femme adultère », qui est lamentablement traînée par des hypocrites, des gens qui la jugent, vers Jésus qui ne la condamnera pas. Il est illustré aussi le Christ portant sa croix, le Christ dépouillé de ses vêtements, une pietà, le retour du calvaire après la mise au tombeau dont il était question tout à l'heure. Et cette pièce est de 1909. Et Forain va la peindre finalement. À côté de ses évocations d'une inspiration qui est très haute, où le réalisme et la transposition dite moderne à l'époque expriment vraiment une émotion profonde et révèlent des intentions profondes, bien, il faut placer les scènes qu'il a vues à Lourdes, qui sont toutes rayonnantes de foi, qui sont imprégnées d'une piété humaine dont Forain va demeurer toujours imprégné. Il y a une très belle scène, l'imploration devant la grotte. On dirait que c'est dépassé, puis que les scènes religieuses, puis les tableaux religieux, on n'en a que faire aujourd'hui. Sachons donc les regarder avec ce qu'elles ont de beau. Hein. Même le Christ jaune de Gauguin, c'est très simple, mais c'est très beau ce Christ jaune de Gauguin. C'est qu'il y a de très beaux tableaux religieux modernes. Hein. Enfin, il a fait aussi le transport des malades, la communion des malades, la miraculée. Puis ces eaux fortes ont été présentées au public avec quelques pointes sèches, des lithographies, des dessins, des cipias, des peintures. Dans la grande exposition Jean-Louis Forain, qui a eu lieu au pavillon de Marsan en 1913, et quand éclate la guerre en 1914, bien Forain a 62 ans. Il ne peut pas combattre dans les tranchées. Il admire l'héroïsme des jeunes. Alors il contracte un engagement pour organiser le service de camouflage. Et puis il ne délaisse pas pour autant son crayon. Il s'en sert pour soutenir le moral des armées, alors il collabore à l'Opinion, à l'Avenir, puis au Figaro, au fameux Figaro. Et après l'armistice, 1918, le sous-lieutenant Forain revient dans son foyer. Il est fixé définitivement dans son comportement intellectuel et moral. Tout le monde sait qu'il est converti. Il a compris qu'une société ne peut vivre, dit-il, que dans l'ordre et la discipline. On dira, wow, mais dans l'ordre et la discipline, c'est dépassé, c'est des mots qu'il ne faut plus dire. Et pourquoi pas un certain ordre intelligent, il ne s'agit pas d'être casse-pied, une certaine discipline intelligente, il ne s'agit pas d'être à cheval sur des tas de principes, il s'agit d'avoir du bon sens. Hein. Alors cet ancien anarchiste devient le défenseur, on peut dire, des grands principes profonds, qui soutiennent les hommes et qui font subsister la joie de vivre. C'est le sens et le respect de certaines traditions. Il n'y a de beau, disait-il, que les grandes valeurs du passé. Et la société que Jean-Louis Forain avait autrefois malmenée, la société établie, si on peut dire, ne lui tient pas rigueur de son esprit caustique et n'y continue, n'est-ce pas? Il est comblé quand même d'honneur, qu'autrefois il méprisait. Mais ça arrive souvent, ça. Combien de fois on voit des gens qui sont très, très révolutionnaires à 20, 25, 30 ans et qui tout à coup obtiennent le prix du gouverneur général? Ils vont chercher à Ottawa. Ça arrive, ça. Et alors, donc, l'Académie des Beaux-Arts... C'est comme l'Académie française, l'Académie de médecine. Alors, l'Académie des Beaux-Arts l'accueille en 1922. Et le général de Castelnau lui apporte sa voix. Vote pour lui, ce qui n'est pas pu dire un général. Dont il s'était beaucoup moqué autrefois. Et puis, il est plutôt porté encore à s'en moquer. Il est promu dans la Légion d'honneur au grade de commandeur. On le nomme même président de la Société nationale des beaux-arts, dont il a été l'un des fondateurs. Puis il est président, écoutez bien ça, de la Société des humoristes. Il est fêté, il est recherché, et sans doute encore un peu redouté toujours. Alors pourtant, les griffes et les dents de ce vieux lion se sont un peu émoussées. Il goûte pacifiquement les fruits d'une conversion qui n'a rien de spectaculaire. Son christianisme... c'est pas un christianisme d'apostolat, hein. Il se contente de prêcher d'exemple. Louis Morin, secrétaire général du Salon des humoristes, exprime en ces termes dans le bulletin de la Société en 1924, la Société des humoristes, son admiration, sa gratitude envers le meilleur des présidents, dit-il. Il écrit, Cet artiste, Jean-Louis Forain, qui fut toujours la terreur des satisfaits de la République et des profiteurs de la guerre, et dont l'approche est difficile, nous l'avons vu 100 fois donner son aide tout de suite, sans hésiter, aux plus humbles des jeunes étudiants aux beaux-arts, les rapins, là, à la plus misérable même des vieilles femmes. Alors il est plein de charité et de véritable vie chrétienne. Et ainsi passeront les dernières années de cet artiste qui est arrivé, comme on dit. Ah, j'ai horreur de ce mot, arrivé. Il est parvenu même à la fortune, quelle horreur. Mais il sait mettre en pratique le conseil de saint Paul. C'est dans l'Épître aux Romains, au chapitre 12. Tâchez de faire le bien non seulement devant Dieu, mais devant tous les hommes. Ayez la paix avec tous les hommes. Et son dernier voyage sera pour se rendre à Barcelone, en Catalogne, en Espagne, à l'occasion de l'exposition qui se tient dans cette ville en mai 1930. Il va mourir en 1931. Au retour, il va à la grotte de Lourdes, parce que Lourdes, c'est tout près, n'est-ce pas? C'est au pied des Pyrénées, comme vous le savez presque tous, j'espère. Il faut bien aller à Lourdes un jour dans sa vie, même si on s'en moque. Je me souviens d'y être allé en 1950 à reculons. Bon, j'avais 24 ans, mais je me disais, bon, aller à Lourdes, à Lourdes. J'étais catholique, j'allais à la messe tous les jours, je restais même, je l'avoue, mon bréviaire, mais Lourdes. Et c'était un des plus grands moments de ma vie, de voir ce que je vous ai dit tout à l'heure, la beauté des âmes à Lourdes, des âmes simples, mais aussi des gens très instruits qui en arrivent à avoir une âme simple. Alors il va donc à Lourdes, il s'est réjoui d'apprendre en ce début de 1930 que le maréchal Joffre était mort chrétiennement le 3 janvier 1930. Arraché, écrit-il Jean-Louis Forain, aux griffes de la libre pensée. Imaginez, il a changé, hein? Lui qui était un libre penseur. Il s'est rappelé avec plaisir à ce propos que Barbé de Révilly aussi s'était lui aussi confessé avant de mourir. Saviez-vous que Jean-Paul Sartre en a fait autant? François Hertel aussi? Souffrant d'asthme et d'emphysème, il endure son mal courageusement dans la pensée, à l'exemple de Huysmans, ce qui l'a amené à la foi. Il est obligé de garder le lit durant la semaine sainte de 31. Il lit l'office dans le livre de messe de sa mère, dont le portrait est là, accroché au mur, près du crucifix. C'est une petite peinture sur bois qu'il avait exécutée en 1872, quand il avait 20 ans. Et dans son portefeuille, sous son oreiller, qu'est-ce qu'il y a? Des médailles de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, imaginez. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Et durant l'été, son état s'aggrave, et malgré les soins dont l'entoure son médecin, eh bien, dans la nuit du 12 au 13 juillet 1931, il se sent mourir. Alors il appelle auprès de lui sa femme et son fils Jean-Loup, qui se tiennent très inquiets dans la chambre. Et avant d'expirer, bien, il leur adresse ses dernières recommandations. Il a souhaité qu'on grave sur sa pierre tombale, au-dessus de son nom, ces mots « mort en chrétien ». Mais Madame Forain, elle craint, par un scrupule qui est très touchant, qu'on ne voit là-dedans que l'indice d'une conversion qui s'est effectuée au dernier moment, alors que Forain avait pourtant longuement vécu en chrétien. Alors son vœu n'a pas été rempli. Et la dalle de granit qui est l'entrée du petit cimetière qui entoure l'église de Chenet-Rocancourt recouvre le corps de Jean-Louis Forain. Elle ne porte que son nom, au bas d'une croix. Et dans l'introduction au catalogue de l'exposition organisée à la Bibliothèque nationale, à l'occasion du centenaire de l'artiste en 1952, on peut lire ces lignes que voici. Par-delà tous les honneurs qui lui vinrent au soir de la vie et qu'il accepta simplement sans illusion ni dédain, ce sont les victimes, les humbles et déshérités du sort qui furent proches de sa pensée. C'est par pitié pour eux qu'il fut féroce aux autres, aux possédants, aux puissants et aux satisfaits. Et sous le masque des apparences, eh bien cet ironique était un tendre. Ce sceptique était un patriote et ce désabusé un croyant. Longtemps, il avait cherché celui qui fut mis en croix pour avoir chassé du temple les publicains, les scribes et les pharisiens. Jean-Louis Forain est mort ayant trouvé Jésus-Christ.